Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La campagne de vaccination a commencé en France et dans de nombreux pays européens. Entre espoir et inquiétude, des incertitudes persistent. On ne sait pas combien de temps les vaccins sont efficaces et s'ils empêchent d'être contagieux. Nous irons en Allemagne. Bilan sur une première journée de vaccination. Hier, la campagne est pour l'instant limitée et jugée plutôt lente, nous expliquera notre correspondant à Berlin. Faut-il s'attendre à un troisième confinement en France? Dans d'autres pays d'Europe, les mesures de restriction se multiplient. Nous ferons le point en Irlande du Nord, en Écosse et en Autriche. Et puis notre correspondante en Centrafrique reviendra sur les élections qui avaient lieu hier dans un contexte sécuritaire tendu. Une certaine Morissette a été vaccinée la première en France hier contre le Covid-19 et des millions de personnes devraient suivre. La campagne de vaccination a commencé pour quelques résidents d'EHPAD dans l'Hexagone et montera en puissance avec pour objectif la vaccination de 15 millions de personnes d'ici l'été prochain. Le produit de Pfizer et BioNTech est le premier autorisé. Moderna attend le feu vert pour début janvier. Pour ces vaccins, comme pour celui d'AstraZeneca par exemple, des incertitudes persiste malgré l'espoir, Véronique Julia.
Les premières vaccinations, moins d'un an après l'apparition officielle du virus en Europe, tout le week-end, sur Twitter notamment, beaucoup d'experts ont salué l'exploit. Félicitons-nous que ce virus ne soit pas arrivé 30 ans plus tôt, écrit l'un d'entre eux. On n'aurait pas pu à l'époque sortir des vaccins efficaces en 9 mois. Efficaces, ils le sont a priori, à plus de 90% pour Pfizer et Moderna, ils empêchent les formes graves. Les essais cliniques n'incluaient pas de patients très âgés, mais la Haute Autorité de Santé est assez confiante pour les octo- et nonagénaires. Combien de temps ces vaccins sont-ils efficaces? Et surtout, empêchent-ils d'être contagieux? On ne le sait pas encore. Ont-ils des effets indésirables? Pour l'instant, rien de grave n'a été signalé, hormis des réactions très rares chez des personnes très allergiques, pour lesquelles du coup le vaccin Pfizer n'est pas recommandé en France. Le vaccin reste-t-il efficace contre le variant britannique du virus? À ce stade, pas d'inquiétude. Mais les fabricants de vaccins ARN se disent prêts à réagir en 6 semaines s'il fallait s'y adapter. Enfin, autre inconnu, les Français face au vaccin. De leur adhésion dépend aussi la réussite de l'opération. Pour l'instant, il reste méfiant. Moins de la moitié se disent prêts à se faire vacciner.
Et nous reparlerons de la politique vaccinale française, de l'importance de la concertation dans les matins de France Culture avec les invités d'Hervé Gardette à partir de 7h40. La campagne de vaccination a donc commencé ce week-end en France comme dans d'autres États européens. En Allemagne, des résidents d'une maison de retraite ont reçu leur piqûre samedi soir. Comme pour la France, un seul vaccin pour l'instant est utilisé, celui de l'alliance entre le géant américain Pfizer et la petite société allemande BioNTech. Vaccin qui doit se conserver au froid, Ludovic Piétenu.
Une rupture de la chaîne du froid n'a pas permis de commencer la vaccination dans 7 cantons de Bavière. L'information a fait l'ouverture des journaux. Seul un père pour cette première livraison de 150 000 doses, suivie de 520 000 autres aujourd'hui. C'est tout simplement trop peu, a jugé le dirigeant bavarois, car dans les faits, d'ici fin mars, le nombre de doses attendues ne couvre pas les besoins des 8,5 millions d'Allemands prioritaires. C'est une première étape, mais elle est importante, tant père Peter Tschentscher, le maire de Hambourg. C'est normal qu'au début cela se fasse lentement. À Berlin, par exemple, n'est ouvert depuis hier qu'un seul centre sur les 6. C'est ici, à l'Arena, une salle de concert du quartier de Treptow, qu'observe ce couple de retraités. On est venu jeter un œil parce qu'on sait qu'on va devoir y venir, explique Renate, 82 ans, qui dit ne pas avoir peur du coronavirus parce qu'on est déjà bien trop vieux, dit-elle. Mais il faudra bien se faire vacciner, surtout en espérant que ça aide les autres. Les 80 cabines de ce centre ne fonctionne que sur invitation adressée au personnel médical et aux plus de 80 ans qui peuvent se déplacer. Pour les autres, des équipes mobiles viennent à leur rencontre dans les maisons de retraite. Dans la capitale, par exemple, circulent 60 voiturettes capables chacune de vacciner 50 personnes par jour.
La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu. Le début de la vaccination ne signifie pas que la pandémie touche à sa fin. Face à la multiplication des nouveaux cas, plusieurs pays annoncent des mesures de restriction. Israël a entamé hier son troisième confinement. L'Italie l'a fait avant Noël. L'Autriche n'est pas épargnée non plus. On fait le point en Europe avec Jérémy Audouard.
Depuis ce week-end, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Autriche appliquent de nouvelles restrictions. Les autorités ne parlent jamais explicitement de confinement, mais ça y ressemble fortement. En Autriche, on parle plutôt d'un couvre-feu qui s'applique durant la journée. Nuance, il sera en vigueur jusqu'au 24 janvier et les restrictions seront levées un peu avant pour les travailleurs qui acceptent de se faire tester. Ces mesures drastiques interviennent alors que la veille, les Autrichiens pouvaient encore se rendre librement dans les stations de ski qui étaient restées ouvertes à l'occasion de Noël. Nouvelle mesure également en Irlande du Nord et en Écosse. Là-bas, les commerces considérés comme non essentiels ont été fermés, les contacts sociaux limités. En cette fin d'année, les couvre-feux et les confinements partiels constituent donc la norme un peu partout sur le continent, hormis en Europe du Nord. À ce jour, 25 millions d'Européens ont été infectés par la Covid-19.
De nouvelles mesures de restriction vont-elles être prises en France? Certains redoutent un troisième confinement ou des confinements locaux. Nous devrions en savoir plus dans les prochains jours. Un conseil de défense sanitaire devrait avoir lieu demain autour du président de la République, Emmanuel Macron, en visioconférence. Donald Trump avait menacé d'opposer son veto au plan de relance de l'économie américaine. Finalement, hier, le président sortant des États-Unis a ratifié ce plan de 900 milliards de dollars. Il prévoit des aides aux ménages et aux petites entreprises. Le locataire de la Maison-Blanche a également signé la proposition de loi de financement de l'État fédéral, ce qui évite la fermeture des services publics qui auraient pu avoir lieu demain. Le dirigeant était sous pression, critiqué de toutes parts et encouragé à signer pour éviter un désastre économique et social. Reportage aux États-Unis à 7h30. Des groupes armés menaçaient d'empêcher le vote et de marcher sur Bangui. Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu hier en Centrafrique dans un contexte sécuritaire tendu et après plusieurs jours de combats dans certaines localités du pays. Une élection à haut risque qui s'est finalement un peu mieux déroulée que prévu, Charlotte Cosset.
Il n'y a pas eu d'incident sécuritaire important dans la capitale. Les bureaux de vote ont pour certains eu du retard à l'ouverture, en cause des problèmes de logistique notamment. Quelques dysfonctionnements ont aussi été signalés, mais les électeurs étaient globalement au rendez-vous à Bangui, décidés à utiliser leur droit de vote pour lutter contre les pressions des groupes armés. Un dispositif sécuritaire important a été déployé à Bangui, dans la ville et dans les bureaux de vote. Casques bleus et forces de sécurité nationale étaient très présentes. Si à Bangui la situation a été calme, ce n'est pas le cas dans certaines villes de province, notamment dans les villes de Boire ou de Bambari. Dans certaines localités, les groupes armés ont perturbé le vote en empêchant le déploiement du matériel, en détruisant ou volant les urnes ou en faisant peur aux électeurs. Hier soir, les chiffres de la participation n'étaient pas encore connus.
Charlotte Cosset à Bangui. Aujourd'hui s'ouvre à Moscou le procès pénal du banquier français Philippe Delpal avec plusieurs autres collègues du fonds d'investissement Baring Vostok. Ils doivent répondre d'accusations de détournement de fonds dans une affaire que les accusés estiment depuis le début montée de toutes pièces. À Moscou, Jean Didier Revoin.
Après 2 ans d'une enquête qui lui a valu d'être incarcéré de longs mois dans une prison russe avant de bénéficier d'une stricte assignation à résidence, le banquier français Philippe Delpal compte sur ce procès pour faire triompher la vérité. Avec ses co-accusés, le directeur financier du fonds d'investissement Baring Vostok entend démontrer qu'il a été accusé et incarcéré à tort dans le cadre d'un différend financier avec un actionnaire. Pour renflouer sa banque, Vostochny Express, le fonds s'était associé à un banquier, Artyom Avetisian, mais s'estimant lésé et à l'approche d'un arbitre à Londres s'annonçant défavorable, ce banquier russe est soupçonné d'avoir voulu régler son litige au pénal en actionnant des contacts au sein des services de sécurité russes et du système judiciaire. En Russie, cette pratique est souvent utilisée dans le monde des affaires pour se débarrasser d'un actionnaire. Et si cette affaire a fait grand bruit au sein de la communauté d'affaires, c'est que pour la première fois, des investisseurs occidentaux s'estiment victimes de cette pratique. Plusieurs personnalités libérales, dont un ancien ministre des Finances, avaient pris publiquement la défense de Baring Vostok, sans succès. Paris avait également qualifié d'indignes les poursuites retenues contre Philippe Delpal sans obtenir davantage de résultats. À charge maintenant pour Philippe Delpal et le directeur de Baring Vostok, l'américain Michael Calvi, de démontrer preuves à l'appui qu'ils ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés. Telle est du moins la conviction de Philippe Delpal.
Des milliers de foyers étaient privés d'électricité hier soir à cause de la tempête Bella en Alsace, en Franche-Comté et en Auvergne. 9 départements sont aujourd'hui placés en vigilance orange par Météo France pour des chutes de neige, des risques de verglas, notamment dans l'Aveyron, tandis qu'un phénomène de vague submersion affectera les littoraux de la façade atlantique. Le temps est donc très perturbé. Vous n'aurez pas plus de 5 degrés à Lille et Strasbourg, 6 à Paris, 8 à Brest, 9 à Bordeaux et 11 degrés cet après-midi à Marseille.